Mais bonjour à tous et à toutes. Si vous voulez bien revenir dans Éphésiens que notre frère nous a partagé, que nous allons encore continuer ce matin, Éphésiens au chapitre 3. Notre frère Karim a prêché il y a deux semaines sur chapitre 3, versets 1 à 13. Donc moi je termine cette partie d'enseignement. Dans le verset 14, nous lisons ceci. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de cette histoire. L'histoire d'un couple qui devait aller en croisière. La veille de leur départ, ils eurent une panique. Comment allaient-ils vivre pendant deux semaines en pleine mer? Mais le couple s'est dit, comme les prix des repas sont chers en pleine mer, alors faisons-nous quelque chose. Ils se firent des sandwichs et achetaient beaucoup de fruits. Ainsi, ils pourraient alterner entre restaurant et leur sandwich. En pleine mer, ils prirent leur premier repas en cabine et passaient l'après-midi avec les autres personnes autour de la piscine. Et à l'heure du dîner, alors que les autres vacanciers se rendaient au restaurant, notre cher couple alla discrètement dans leur cabine, face à leur sandwich devenu un peu sec. L'un des deux dit, « Je n'ai pas faim. » Et l'autre répondit, « Moi non plus. » Ils sortirent de leur cabine pour profiter de la brise du soir. Juste à côté du restaurant, ils rencontraient une personne sortant du restaurant toute joyeuse. La personne fut surprise de les voir là, isolés, alors que tout le monde était au restaurant. Mais elle leur demanda, « Mais vous ne venez pas dîner avec les autres ?» Le couple répondit timidement et d'une manière honteuse, « Nous n'avons pas assez d'argent pour manger tous les jours au restaurant. » La personne, toujours dans la surprise, leur posa la question, « Mais quel type de réservation avez-vous faite ? Puisque tout est compris dans le billet. » Nous voyons dans cette épître de Paul, il y a vraiment deux prières. La première, c'est celle que nous a sur laquelle s'est appuyé notre frère Clément, au chapitre 1, versets 15 à 16 à 23. L'apôtre Paul prie pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Dieu illumine les yeux de cœur des Éphésiens afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints? Le thème de ce message, c'est connaître les richesses de Dieu pour l'Église. L'apôtre termine cette partie doctrinale de sa lettre par une seconde prière, celle que je viens de lire. Il dit ici, « Je fléchis les genoux devant le Père, afin que l'Esprit nous fasse connaître toutes les richesses qui sont à la disposition de l'Église. » Connaître les richesses de Dieu pour l'Église, oui, cela passe par une transformation constante de notre homme intérieur et par une appropriation constante de l'amour de Christ, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il commence au verset 14, il dit « Je fléchis les genoux devant le Père ». Je fais une parenthèse ici. Il dit ici, fléchir les genoux, ce n'est pas une posture, bien sûr, imposée par la Bible. Comprenons bien. ce n'est pas une posture pour que nos prières soient exaucées. Non, la Bible ne donne aucune position spéciale pour la prière. Quand on parcourt la Bible, Abraham se tient debout lorsqu'il prie pour Sodome, Genèse chapitre 18. Salomon également, lorsqu'il prie pour la dédicace du temple, David alla se présenter devant l'Éternel lorsqu'il pria pour l'avenir de son royaume. Bien sûr, ils étaient debout. Et Jésus-Christ se jeta la face contre terre lorsqu'il pria à Gethsemane. Donc nous constatons que ce n'est pas important la position, mais c'est toujours dans la prière quelle est notre attitude devant Dieu. Avons-nous une attitude de soumission, une attitude de respect devant Dieu dans la prière? Oui, l'apôtre Paul fléchit les genoux devant le Père pour que nous connaissions les richesses de Dieu pour l'Église. Il dit bien le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de Jésus-Christ est devenu aussi le nôtre. C'est lui qui est la source de l'existence de tout être vivant. C'est en lui que toute réalité trouve sa cohérence. Il prie pour le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle il nous a révéler le mystère que nous avons vu il y a 2 semaines. Pour que nous allions annoncer ce mystère, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, juifs et non-juifs, mais ils soient sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il va prier pour le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour connaître pleinement les richesses de Dieu dans l'Église, il nous faut une transformation constante de notre être. Donc ici, il y a un appel à la transformation. Il dit au verset 14, transformation de votre homme intérieur. L'homme intérieur, bien sûr, ici, vous avez compris, vous savez bien, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Nous sommes appelés à laisser l'Esprit de Dieu transformer l'état de notre cœur. L'apôtre Paul demande à Dieu, ici, d'orienter et de structurer, avec l'aide du Saint-Esprit, notre façon de voir les choses spirituelles. Il nous appelle à une transformation en profondeur. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes constamment appelés à être transformés par l'Esprit de Dieu. Oui, malheureusement, il nous arrive encore de mettre des obstacles. C'est toujours « moi, c'est ça. Moi, j'ai appris comme ça. Moi, c'est comme ça. » Et des fois, le « moi » vient faire obstacle à l'œuvre de Dieu. Il nous manque même des fois des chrétiens qui n'arrivent plus même à confesser leurs péchés. Parce que des fois, chez nous, il peut y avoir une certaine suffisance. Alors que le Seigneur veut, cherche à transformer notre cœur d'homme intérieur, afin que nous comprenions toutes les richesses qu'il a à notre disposition. Oui, chers frères et sœurs, laissons l'Esprit de Dieu transformer notre homme intérieur. Laissons Dieu par son Esprit Saint nous transformer en profondeur. La question que je dois me poser constamment, quel est l'état de mon cœur aujourd'hui? Quel est l'état de mon cœur au quotidien? L'homme sage disait dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Humainement, nous sommes incapables de garder notre cœur, incapables de faire ce qui est bien devant Dieu, d'où la nécessité de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous par sa parole, qui nous appelle à méditer constamment sa parole pour que Dieu transforme l'état de notre cœur. Oui, un appel à se laisser fortifier par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit au verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous soyons ici l'intervention agissante du Saint-Esprit dans nos vies chrétiennes. Si notre cœur n'est pas constamment sous le contrôle du Saint-Esprit, il demeurera tortueux et restera sous l'emprise des mauvais désirs. Nous pouvons exposer nos connaissances. Nous pouvons philosopher, comme cela se faisait à l'époque de l'apôtre Paul. Mais si nos cœurs ne demeurent pas sous l'influence constante du Saint-Esprit, nos pensées, même nos actions, ne glorifieront pas le Seigneur. Il prie ici pour les Éphésiens, il prie pour les chrétiens, que nos cœurs demeurent sous l'influence du Saint-Esprit. Il prie pour que Christ habite dans nos cœurs. Peut-être pour certains, en lisant ça d'une manière rapide, c'est surprenant. Que Christ habite dans nos cœurs. Il prie pour que Christ habite dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous savons tous que toute personne qui confesse ses péchés et reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ, la Bible nous dit, Christ vient habiter dans son cœur. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Christ vient habiter. Mais Paul prie ici pour que Christ vienne habiter dans nos cœurs. Il dit, si nos cœurs sont fortifiés par le Saint-Esprit, si nous restons sous l'influence du Saint-Esprit, Christ habitera pleinement en nous. C'est-à-dire, l'apôtre demande qu'il y ait une intimité forte entre Christ et le croyant. Que le Saint-Esprit et le croyant sont toujours en train de travailler ensemble. Avoir Christ en soi, c'est avoir l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui habite dans nos cœurs. Il prie pour qu'il y ait toujours une communion plus forte entre Christ et les chrétiens. Vous trouvez bien, il y a cette répétition constamment, intimité forte, communion forte, pour nous montrer que nous avons besoin d'être constamment renouvelés, besoin constamment d'être renouvelés pour être dans la volonté de Dieu. C'est sa présence en nous qui est source de puissance. John Stott, dans son commentaire, souligne ceci. Dit l'appropriation de tout ce que nous représente la présence de Christ en nous est une question de degré, comme d'ailleurs la puissance du Saint-Esprit. Ceci rejoint un peu la petite histoire de l'introduction. Jouissons-nous pleinement d'une intimité avec Christ? Cherchons-nous à être constamment remplis du Saint-Esprit? Dieu veut travailler en nous. Dieu veut nous amener encore toujours plus loin, en profondeur. Mais est-ce que nous laissons la place nécessaire? Il prie pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. D'ici par la foi, que Christ habite dans nos cœurs par la foi, oui, nous devons faire preuve de persévérance dans la confiance en Christ pour qu'il exerce sa seigneurie dans nos vies. Dieu, par son esprit, dirigera toujours nos vies pour notre bien et pour sa gloire. Mais est-ce que nous lui faisons confiance? Je relis au verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs, et fondé, enraciné et fondé dans l'amour. » Étant enraciné et fondé dans l'amour, il utilise ici, nous voyons ici deux métaphores, l'une botanique et l'autre architecturale. Paul utilise ici ces deux images pour toujours mettre l'accent sur la profondeur par opposition à la superficialité. Et il y a une mise en garde, la superficialité, ça nous guette souvent. Nous savons par expérience que l'arbre doit planter ses racines profondément dans le sol s'il veut bénéficier de nourriture et surtout de stabilité. En période de tempête que nous voyons cette année, ces mois-ci, quelle tristesse de voir tous ces arbres millénaires qui tombent parce que les racines ne tenaient plus. Les racines étaient déjà pourries à l'intérieur. Les racines spirituelles du chrétien doivent être profondément implantées dans l'amour de Dieu. Connaissons en psaume chapitre 1er. Nos racines doivent être plongées de plus en plus dans l'amour de Christ si nous voulons que notre vie ait de la puissance, si nous voulons que notre vie ait de l'harmonie, si nous voulons connaître une intimité forte avec le Seigneur, nos racines doivent être enracinées dans l'amour. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être enracinés et fondés dans l'amour. Bien sûr, l'amour pour Dieu, l'amour pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, et continue de faire pour nous ce qu'il fait dans nos vies. Ce n'est pas un amour intéressé, non. La Bible nous le dit d'ailleurs, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais nous sommes appelés à être enracinés et fondés dans l'amour. L'amour pour des frères et sœurs en Christ, juifs, non-juifs. Cet amour doit être caractérisé bien sûr par le don de soi et l'esprit de service. pour comprendre les richesses de Dieu pour l'Église, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ici, nous sommes aussi appelés à nous approprier cet amour. Verset 18, il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Puissiez comprendre. La compréhension, c'est vrai, peut développer l'idée de saisir, comprendre quelque chose mentalement. Mais ici, c'est vraiment appréhender, ici, c'est l'idée dans l'application pour soi-même. Ce qu'il demandait, il est possible de comprendre quelque chose, mais de ne pas réellement nous l'approprier. On peut nous faire un cadeau, mais tant que nous ne prenons pas le cadeau ne nous appartient pas. Alors que nous, on nous tend un cadeau. Christ veut faire ici, Paul demande à Dieu que nous puissions entrer en possession de toute l'étendue de l'amour de Dieu. Nous puissions entrer. Comme Abraham qui avançait par la foi pour saisir son héritage. Abraham avançait par la foi. Nous sommes appelés à nous approprier de l'amour de Christ avec tous les saints. Ce qu'il insiste ici, avec tous les saints. Le salut en Jésus-Christ est une question personnelle, oui. L'amour de Christ peut être personnel et plus en mer encore communautaire. Nous jurons pleinement de cet amour dans la communauté. John Stott ajoute ceci. Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ, mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Il nous interpelle, frères et sœurs. Assister à l'église au dimanche, assister à l'église dans la semaine, ce ne sont pas des options. C'est une manière de nous approprier de l'immensité de l'amour de Dieu. Ramasser toutes ces grâces, trouver toutes ces grâces que Dieu donne pour nous, pour vivre pleinement pour la gloire de Dieu. Pour comprendre cet amour qui surpasse toute connaissance, il ne faut rien moins que le peuple de Dieu. Il ne faut rien moins que le peuple de Dieu. L'ensemble de tous les saints, juifs et non-juifs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, venant de horizons différentes, nous avons la communauté pour jouir pleinement de l'amour de Dieu. Pour comprendre cet amour de Dieu pour son peuple, nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu, remplis en abondance de la grâce de Dieu. La prière de Paul peut se résumer en ces quelques mots. Que nos vies soient enracinées dans l'amour de Christ. Que la connaissance de l'amour de Christ et la plénitude de Dieu lui-même remplissent nos vies. C'est juste un enseignement qu'il apporte ici. Nous pouvons trouver que cette prière, c'est vrai, peut paraître exigeante. Il est certain que nous n'atteindrons jamais cette plénitude finale dans ce monde. Non, nous sommes toujours dans nos vies, malheureusement, sont toujours aussi pleines de jours de péché. Mais il attend de nous une croissance constante chaque jour, sachant que c'est Dieu lui-même qui œuvre en nous par l'action du Saint-Esprit. Donc ce que Dieu nous demande, nous laisser transformer, c'est lui qui le fait. Donc c'est à nous simplement de nous laisser constamment être remplis pour vivre selon le plan de Dieu. Je termine ici par cette prière, cette belle doxologie. Au verset 20, il dit ceci. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui peut faire, c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir, relire, en relisant tous les trois chapitres d'Éphésiens ce matin dans le métro, j'étais toujours émerveillé. D'ailleurs, celui qui peut faire, il nous a prédestinés en Christ. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il faut des fois que nous prenions le temps, c'est peut-être plusieurs le font aussi, méditer ces versets. Dieu nous a accordé le pardon de nos péchés à la croix. Oui, il nous a sauvés par sa grâce. Il n'y avait rien de bon en nous. Nous étions même, la Bible dit, nous étions des enfants de colère. Nous étions par nature des enfants de colère. Sans espérance, sans alliance de la promesse. Aujourd'hui, nous sommes unis à Christ. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes unis à Christ. Nous sommes assis auprès du Père dans les lieux célestes en Christ. Il n'y a plus d'inimitié aujourd'hui entre juifs et non-juifs. Entre juifs et païens, Dieu a fait de nous un seul peuple qui lui appartienne. Nous sommes aujourd'hui, malgré notre petitesse souvent, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce sont des bénédictions. Oui, il a fait et il fera encore de grandes choses pour nous si nous nous laissons diriger par son Esprit. En Christ, nous sommes devenus la famille de Dieu. Comment ne pas lui rendre gloire? Nous sommes devenus, malgré certaines de nos attitudes, le temple de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par la puissance qui agit en nous, la puissance qui agit en nous vient de lui, donc à lui la gloire, à lui la gloire. La force que nous avons d'accomplir certaines choses, ça vient de Dieu. Ce qu'il peut faire et de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous avons aujourd'hui un Dieu qui entend nos prières. Nous avons aujourd'hui un Dieu qui a la capacité d'exaucer nos prières. D'autres, c'est des images encore, des statues. Mais nous avons un Dieu capable. Parce qu'il nous a ressuscités pour que nous soyons constamment en communion avec lui. Et rien n'est dit, et rien n'échappe à notre Seigneur. Quel que soit le problème, nous le lui remettons et nous trouvera toujours une solution. Je pense que l'Église en a besoin en ce moment, de prier. Il les exauce infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensions. Comment ne pas rendre gloire à un tel Dieu? Comment ne pas rendre gloire? Je termine par la prière du psalmiste que je fais mienne, la vôtre aussi. Psaume 95, versets 1 à 7. Je crois que le psalmiste, comme l'apôtre Paul, nous dit ceci: venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Amen. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, nous ne pouvons que dire comme l'apôtre Paul, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur de travailler dans nos cœurs. Merci de nous avoir sauvés. Seigneur, merci de nous avoir accordé toutes ces grâces. D'être aujourd'hui, savoir que nous sommes, rien ne pourra plus nous séparer de ton amour. Aide-nous à jouir pleinement de cet amour au quotidien. À nous laisser, Seigneur, diriger par toi. Oui, bénis ton peuple, Seigneur. Que quels que soient les lieux où nous sommes, nous puissions te rendre gloire. Car toute la gloire doit te revenir. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen.